l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Et c'est aujourd'hui l'heure de notre rendez-vous sport sur Radio Évasion. On cause de sport, mais pas que, une fois par mois dans l'EM. On retrouve Fred Sévaer. Bonjour Fred.
Bonjour.
Alors dans cette première partie de l'EM, on parlera de foot et aussi d'humanitaire avec ton invité Michel Gestin.
Tout à fait.
Alors on le rappelle, Michel Gestin, ancien président du Stade Brestois. C'est le président brestois qui a fait retrouver au stade son statut de club pro. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les supporters du stade vont être aussi attentifs. Le natif de Cizun est avec nous en studio. Bonjour Michel Gestin.
Bonjour à vous deux. C'est gentil de m'accueillir déjà.
Alors on vous retrouve d'ici quelques minutes, mais pour débuter cette émission, on va retrouver les évadés du sport avec Hugo Lebeuz pour le résumé de l'actualité sportive de la semaine.
Les évadés du sport sur Radio Évasion. Hugo Lebeuz.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Évasion, vous écoutez les évadés du sport. Votre flash autour de l'actu sportive bretonne. Au sommaire de ce nouveau flash, un retour sur un week-end de 100 victoires pour Brest et Lorient en Ligue 1 de football, un point sur le premier match de la saison pour les Béliers de Quimper en Pro B de basket, et pour conclure, nous reviendrons sur le retour en grande forme du Brest-Bretagne Handball. On débute ce flash en évoquant les contre-performances lorientaises et brestoises lors de la 10e journée de Ligue 1. Le Stade Brestois a concédé le match nul un but partout à Francis Leblay face au Stade de Reims. L'égalisation tardive mais splendide de Franck Honorat a permis aux hommes de Terzakarian de stopper l'hémorragie dans une période complexe. Les Tizèf occupent toujours la 19e place synonyme de relégation et n'ont pas gagné le moindre match cette saison. De son côté, le FC Lorient s'est incliné 4-1 au Stade Vélodrome de Marseille. Après avoir ouvert le score grâce au virevoltant Armand Loriente sur penalty, les coéquipiers de Julien Laporte ont manqué des opportunités de mener 2-0 avant d'être surclassés par les Olympiens. Les joueurs de Christophe Pélissier connaissent ainsi leur première défaite depuis 6 matchs et occupent désormais la 12e place du classement. Parlons désormais basket. Les Béliers de Quimper ont démarré en fanfare leur saison en s'imposant 84-64 sur le parquet de Boulazac. Ce succès probant, acquis face à une équipe tout juste reléguée de Jeep Elite, réaffirme l'ambition des hommes de Laurent Foirest d'accéder au plus haut niveau français en fin de saison, après avoir manqué de peu l'opportunité d'y parvenir lors des deux dernières. Les Béliers recevront Aix-Maurienne à l'occasion du prochain match de championnat qui sera le premier du nom à domicile. Parlons désormais handball. Après s'être incliné lors des deux premiers matchs de la saison, les joueuses du BBH ont nettement rectifié le tir ces dernières semaines. Les filles de Pablo Morel se sont dernièrement imposées 35-32 en Ligue des Champions face au club croate de Podravka. Ce match nettement dominé par les Brestoises a été marqué par la fraîcheur apportée par la jeunesse brestoise et notamment Eva Yarig. Cléopâtre Darleux a également fait son grand retour dans le but brestoise et a pour cela réalisé une performance majuscule en réalisant 14 arrêts dans ce match de Coupe d'Europe qui permet du même coup à Brest de remonter à la 5e place de sa poule de Ligue des Champions et d'entrevoir le spectre d'une qualification en phase finale. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau flash des évadés du sport. On se retrouve bientôt sur Radio Évasion.
Et pour compléter cet agenda des évadés du sport, prochain match de Brest, ce sera contre Lille ce samedi. Et puis, il y aura la réception de Monaco le dimanche 31 octobre, où Romain Fèvre ira affronter son ancien club, son club formateur. Alors tout de suite, on retrouve Fred et ton invité Michel Gestin.
Bien, alors aujourd'hui, on accueille un local de l'État, puisque natif de Cizun. Alors, pour présenter l'invité, Michel est président emblématique du Stade Brestois 29, entrepreneur dans l'âme, passionné de football et fourmillant de projets. Michel Gestin est sans aucun doute un personnage atypique dans le milieu du football, notamment le seul président à avoir été président de 3 clubs pro en France. Depuis 2013, touché par les drames humanitaires qui se jouaient parfois là sous ses yeux lors des différents voyages d'affaires, il a décidé d'investir son temps et son énergie pour venir en aide aux plus défavorisés au Bénin au travers de son association MJ pour l'enfance. Bonjour Michel.
Bonjour Fred.
Bon, alors, on va peut-être parler en première partie de Michel Gestin, entrepreneur et homme de football. Alors, pour vous présenter et votre parcours aussi, en premier lieu, vous avez eu une carrière professionnelle d'entrepreneur dans le négoce de viande, donc porc et volaille, je crois. Et exactement. Ensuite, parallèlement à ça, devenu président de trois clubs. Alors, comment on devient président d'un club de football professionnel ?
C'est un peu lié à mon métier. À l'époque, donc moi j'ai commencé par être directeur commercial dans un abattoir dans les années 74. Et dans 83, j'ai décidé de partir à Ancenis pour monter deux usines avec un copain, Saint-Marlajaille. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Ancenis. J'étais joueur à Morlaix, au GAN Morlaix à l'époque. Et après, je me suis retrouvé joueur aussi à Ancenis en même temps que chef d'entreprise. Et au bout de deux ans, j'avais 33 ans, il y a le coach Miklos Berès qui est décédé il y a un mois d'ailleurs, et pour qui j'ai énormément d'estime, qui me dit comme ça, toi le Breton, là, il faut que tu reprennes le club. Le club n'était pas bien du tout, il n'y avait plus de président, la moyenne d'âge des joueurs était de 31 ans. Et bon, j'ai repris à 33 ans Ancenis en D4, j'ai mis un an à apprendre. Parce que quand vous êtes jeune, 33 ans, et que vous devenez président d'un club de national, ce n'est pas si simple que ça. Puis j'ai appris au bout d'un an, on est monté en D3 et on est monté en D2. C'était un moment exceptionnel pour une ville de 6 000 habitants, de vivre ce qu'on a vécu. Même on est venu gagner à Brest 2-0, et contre une grosse équipe de Brest avec Goicoechea, Ginola, tous les stars de l'époque. Et franchement, à l'époque... On avait des garçons qui mangeaient l'herbe pour leur président. Et c'était extraordinaire. Non, j'ai vécu une belle aventure en SDI. Et c'est vrai, c'est le hasard un peu pour répondre à votre question. Mais j'avais une âme de dirigeant parce que en 78, en tant que joueur, j'avais fait le tour du terrain de Quatsero à Morlaix en vendant des panneaux publicitaires en tant que joueur. Donc c'est que j'avais déjà une âme de dirigeant. Et voilà, ça s'est confirmé.
Et après, arrivé à Brest, alors en 92, ouais, il y a eu deux périodes, 92, 97, 98, 2006.
Ouais, non, j'étais toujours là. J'étais pendant 4 mois, j'avais laissé le club, mais j'ai repris. Non, c'est la première période a été très difficile à Brest parce que je me suis retrouvé tout seul. Monsieur le maire, Maille, à l'époque, avait des gros soucis. Les chefs d'entreprise aussi, il y a eu quelques soucis par rapport à la Sodiba. Et c'est vrai que ça a été très, très compliqué. Mais bon, le seul bonheur, et vous l'avez dit au départ, c'était de retrouver le statut professionnel. On l'a retrouvé. Et pour moi, ça a été... Ouais, que ce soit avec moi ou sans moi, qu'en 2010, on montait en L1. Peu importe, l'important, c'était que Brest retrouve le haut niveau. Pour moi, ça a été un grand bonheur.
Pour recontextualiser, pour les auditeurs, 92, bah c'est la naissance du stade brestois.
Exactement. Un an après la naissance. Il y a M. Martin et Kéré qui ont repris pendant une année, oui. Et j'ai repris derrière parce que M. Martin ne voulait pas continuer. Donc, moi, je suis revenu en Bretagne et je suis arrivé au bord du terrain un jour et... J'ai vu notre ami Gilles Fallin, je lui ai dit comment on fait pour reprendre le club. Sauf ce que j'avais oublié, c'est d'analyser pourquoi le club en était arrivé là et les complications que ça allait ouais. donner, le fait que le club était dans la panade à cette époque.
C'est ça, parce que 91, c'est la liquidation
Exactement.
Du Brest Armorique.
Ouais, ouais, ouais.
Merci pour ces petits rappels historiques. Alors du coup, comme à chaque fois ça gagne, pareil, Van après, finale de la Coupe de la Ligue.
Un moment extraordinaire avec Van, c'était... Franchement, de vivre ce qu'on a vécu, d'aller en première année de L2 en finale de la Coupe de la Ligue, battre 3-1 en qualif, et surtout, je pense, moi j'étais président 26 ans, le plus beau souvenir, je pense, de ma vie de président avec la montée de Brest en L2, c'était le match de Nice, on gagne à Nice, là-bas la demi-finale. Les Niçois avaient déjà préparé la finale, ils avaient déjà réservé leur hôtel à Paris pour la finale, mais malheureusement ils ne l'ont pas fait, c'est nous qui l'avons fait.
Et il y avait Bordeaux en face.
Et Bordeaux qui était vraiment au summum. Hein, et vraiment, c'était une équipe, à l'époque, c'était la meilleure équipe de France hein, qui était top. On a pris 3 buts en 13 minutes et le match était plié.
Merci, parce que ça faisait partie des questions que j'avais, mais du coup, et moi, du coup, je continue dans la lignée. Du coup, la question, c'est à savoir quelles sont les qualités qu'il faut pour être président, pour réussir. Et puis, je me disais, parce qu'on a un exemple récent, Bernard Tapie qui est décédé, par exemple. Vous avez dû vous croiser déjà aussi, ou en tout cas dans les mêmes années.
Ouais, on s'est croisés, mais bon, moi, j'étais en L2 à l'époque. Et moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de le croiser. J'ai suivi son parcours et qu'il a fait. Moi, j'ai eu l'occasion par contre de bien connaître son fils, parce que c'est lui qui s'est occupé de mon entrée en bourse le 25 février 98, et avec qui j'avais fortement sympathisé. Il faisait partie du groupe Tannberger, et c'est lui qui s'est occupé à 100% de mon introduction. Et j'ai toujours gardé des relations avec lui, parce que c'était quelqu'un de très 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 sympa, puis avec qui, oui, j'avais une bonne relation.
Ouais, et c'est des qualités d'entrepreneur qu'on va retrouver finalement, et de fédérateur, alors.
Exact. C'est en parlant de
De vous ou d'autres présidents, mais.
Ouais. Non, mais pour être président, alors ça a changé. Hein, je ne sais pas si ça fait partie de vos questions, mais aujourd'hui, nous, enfin à notre époque, on était vraiment des passionnés. On était avec notre équipe. Sur l'entraînement dans la semaine, on était tout le temps avant les matchs, on était pendant. Après, je pense que ça a changé, le football a changé. Et aujourd'hui, c'est les fonds d'investissement, c'est les financiers. Le contexte n'est plus le même. Il y a très peu de présidents aujourd'hui. Il reste des gens comme Laurent Nicolin, qui suit les traces de son père dans la passion. Il y a Jean-Michel Aulas. Des gens aussi comme Jean-Pierre Caillot à Reims, mais après je trouve que ouais, ça a changé, ça n'a plus la même âme le football qu'avant.
Très bien, mais j'imagine que du coup, en tant qu'actionnaire aussi du Stade Brestois, vous suivez un petit peu l'actualité. On en dit un petit mot,
ouais, avec plaisir. Ouais, on est malheureux parce que de se retrouver à 19e place, ce qui est terrible, c'est qu'on est dans la logique de la poule retour de la saison passée. Et je pense qu'il manque deux, trois joueurs importants dans cette équipe. Il manque un patron derrière avec Brendan. Il manque un patron au milieu en 6 ou en 8. Et surtout des aboyeurs. C'est ce qui manque à cette équipe, c'est des aboyeurs, des gens qui, sur le terrain, parlent et font avancer les choses. Et c'est dommage. Il faut savoir que le Stade Brestois, aujourd'hui, est la quatrième équipe la plus jeune en Europe. Pas en France, en Europe. Sur les 5 plus grands championnats, Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne et France, c'est la 4e équipe la plus jeune. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas 2-3 joueurs anciens qui sont venus souder ce groupe. Là, j'ai vu les dernières recrues, ces deux jeunes de 19 ans. Moi, je pense que. Non, il manque 2-3 garçons d'expérience. Et je pense que l'équipe a des qualités. Hein, quand on prend offensivement, que ce soit Steve Mounier, Franck Honora, même Cardona, vraiment, le potentiel offensif, pour moi, est important. La déception, depuis 2 mois, c'est Romain Fèvre. Hein, et je pense qu'il n'est pas à son niveau. Et je ne comprends pas, Romain, pourquoi il n'est pas aussi bon que la poule allée l'année dernière, où il a été brillant. Il a fait des bons matchs contre Paris, 2-3 matchs en début de saison. Et il faut qu'il se remette à son niveau. C'est lui qui va faire la différence. Même si, quelquefois, il peut être un peu personnel. Peu importe. S'il donne 2-3 ballons de but, il aura fait gagner ses matchs. Hein, c'est tout. Et après, c'est vrai que y a des joueurs qui sont trop jeunes, enfin trop jeunes, qui sont encore jeunes pour avoir vraiment le niveau L1. Je pense à des joueurs comme Mbok, Magnetti, Le Doiron, qui ont des qualités. Mais c'est vrai que si on veut être dans le milieu du championnat, faut des joueurs un peu plus âgés, 28, 30 ans, qui vont tenir cette équipe.
Bon, espérons que le mercato d'hiver soit fructueux. Alors.
Exactement.
On a parlé tout à l'heure de votre association MJ pour l'enfance, alors pour venir en aide aux enfants du Bénin. Donc votre association a vocation humanitaire. Donc pour l'enfance, ça visait à améliorer les conditions de vie des enfants et personnes se trouvant dans la détresse ou la misère. Alors comment ça a démarré toute cette histoire ?
Moi, j'ai commencé à travailler en Afrique dans les années 82. Et à chaque fois que je sortais de l'aéroport, à chaque fois j'avais nuée d'enfants qui m'accostaient, qui venaient vers moi, qui me demandaient un sou, etc. etc. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tous ces enfants étaient dans la rue. Et ben, l'explication, c'était simple. Ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'école ou les parents ne voulaient pas les mettre à l'école, etc., etc. Et donc, je m'étais dit, le jour où je serai en retraite, je suis en retraite depuis 9 ans, je donnerai de mon temps. Je donnerai mon temps à des gens qui m'ont aidé. Je redonnerai ce qu'on m'a donné. Voilà, je voulais donner du plaisir, du bonheur aux gens qui sont dans la misère, parce que ceux qui connaissent l'Afrique, ils savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont jamais été, c'est compliqué à expliquer. Là-bas, les gens, quand vous sortez des villes, ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il y a les maternités, c'est des crèches, je vous garantis, ce sont des crèches. Et voilà, je me suis dit, ben, il faut qu'on arrive à les aider avec nos amis bretons, et où il y a beaucoup de gens bien et de gens généreux. Et donc, en fin 2013, je suis allé visiter le Bénin, parce que j'avais un copain là-bas qui avait une fondation depuis 2009. Et voilà, je lui ai dit, ben, moi, je suis prêt à venir t'aider. Il faut que tu me mettes à disposition ton équipe. Son équipe, c'était 3 personnes et 2 ingénieurs. Voilà, il faut que tu me mettes à disposition ton équipe et on va essayer de faire des choses. On a commencé la première année, on n'a fait que 2 projets en 2014. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses. On est à 159 projets en 7 ans. On a fait 25 écoles, on a fait 19 petits hôpitaux et on a fait 113 puits d'eau, dont une dizaine de forages et un château d'eau. On devait faire un château d'eau, un deuxième château d'eau, là, au mois de décembre. On le fait en janvier, finalement. Et voilà. Et donc, c'est vrai que... Au départ, je ne voulais pas faire d'eau, surtout des écoles, pour que les enfants ne soient pas sous des tonnelles. Dès qu'il pleut, ils rentrent à la maison. Et après, c'est vrai que quand j'ai commencé à visiter des petits hôpitaux ou des maternités, quand tu vois des gens allongés par terre, qui sont les bras en croix et plâtrés de bas en haut, et tu dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc, tu construis un petit hôpital, tu mets des lits, etc., etc., etc. Et après, l'eau, c'était en 2015, fin 2015, premier puits d'eau. Et quand j'ai vu les dames qui dansaient, qui chantaient, quand on a fait le premier puits d'eau en face de leur village, j'ai compris que il fallait aussi en faire, parce que les dames, elles font quoi? Elles font 2, 3, 4 kilomètres, ce ne sont pas les hommes, hein, surtout, ce sont les femmes, 2, 3, 4 kilomètres tous les matins avec 25 kilos sur la tête. Et le jour où vous leur mettez de l'eau à 20 mètres de leur maison, mais vous avez réglé une grande partie de leur vie. C'est dur à comprendre, mais ce n'est que la vérité. Et donc, voilà. Et puis, cette année, on en a fait 35. Et puis, j'espère qu'on fera autant l'année prochaine. Hein, il y a tellement de choses à faire. C'est incroyable.
J'imagine quand on commence un projet comme ça, on met le doigt dans quelque chose qu'on ne soupçonne pas, parce qu'après, finalement, les besoins sont tellement immenses que du coup, y répondre, c'est répondre pas à tout et comme on peut, et surtout avoir des relais sur place. Et je crois que vous revenez du Bénin et j'imagine votre fierté, c'est de voir aussi que sur place, il y a des gens qui ont pris le relais ou qui sont de confiance et qui mènent les projets. Quoi.
Donc, on n'avait pas été depuis 18 mois. Là, j'étais avec une petite équipe, on était 6. Et on avait pas mal d'inaugurations et de lancements à faire. Et c'est vrai qu'on a... À chaque fois qu'on y va, on est très touché, parce que bon, c'est vrai qu'on donne du bonheur peut-être à des gens, mais on en reçoit beaucoup aussi. Quand on voit ces sourires, quand on voit ces gens qui vous accueillent, vous ne pouvez que dire, on va encore revenir l'année prochaine, on va faire des choses, on va... Parce qu'il y a des endroits, comment on choisit les endroits, c'est le besoin. Quand vous voyez que dans les écoles, les classes, le toit, il y a des grands trous et que l'eau coule en permanence, vous dites, il faut faire quelque chose. Quand vous allez, on a été par exemple dans une maternité et on a vu 4 petits qui venaient de naître dans la nuit, mais c'était une porcherie. La salle d'hospitalisation, c'était une porcherie. Et ça vous fait mal au cœur. Quoi.
Et je constatais aussi que, du coup, les liens entre le football et l'humanitaire, pour vous, ce n'est pas terminé, puisque je crois qu'il y a Steve Mounier aussi qui est attaquant du Stade Brestois et qui a une association au Bénin, que vous soutenez d'ailleurs.
Ouais, Steve, il voulait faire des forages. Et moi, je l'ai appelé, je dis, Steve, on fait un partenariat tous les deux, on fait 50-50, et puis on a fait 5 forages. Et ça, c'est dans le centre du Bénin. Et plus vous montez dans les pays... Plus les pays sont les régions sont pauvres. Là, on a fait des forages dans des endroits pour faire 20 km, il faut au moins 2 heures pour y aller en voiture. Il faut 2 heures pour faire 15-20 km. Et ouais, quand vous leur apportez de l'eau potable, les gens, ouais, c'est incroyable. Hein.
Et vous constatez aussi les effets du changement climatique aussi, vous, sur des zones comme ça, avec le recul que vous avez ou pas du tout?
Franchement, pas beaucoup.
Parce que l'eau, ça va être un enjeu, c'est un enjeu, et ça sera encore plus dans les
Ces pays-là, ouais. Mais bon, après, il faut savoir, hein, bon, nous, on est sur le Bénin parce qu'on a une équipe là-bas sur place, mais tous les pays du Sud-Sahara, c'est la même chose, hein, du Sénégal au Congo, etc., c'est même punition, hein, même punition, même... on parlait du Burkina, du Mali, du Niger, tous ces pays-là. Et en plus, il y a l'explosion démographique. Un pays comme le Nigeria, qui aujourd'hui doit avoir 250-260 millions d'habitants, je crois, et il prévoit en 2050 390 millions d'habitants. C'est incroyable.
Ouais, ça dit quelque chose des enjeux qu'on va devoir, nous tous,
exact,
dépasser.
Exact, ouais. Exact. Et c'est pour ça que... je dis toujours, hein, si les gens fortunés qui ont beaucoup d'argent donnaient ne serait-ce qu'un pour cent, 2% de leur fortune, ils régleraient beaucoup, beaucoup de problèmes dans tous ces pays.
Ouais, parce que une petite question par rapport au milieu du foot, c'est pas quelque chose que vous souhaiteriez voir plus, parce que c'est peut-être le cas en fait, parce que les gros clubs français ont des fondations, par exemple le PSG,
exact,
l'OM.
L'OL, ouais.
Et c'est pas quelque chose qui...
Non, mais il y a... Je sais pas exactement ce qu'ils font, l'OL Groupe Fondation, mais je pense que c'est plus des actions locales qu'ils font,
ouais.
Parce que c'est important aussi, hein, y a plein de choses à faire chez nous, mais il y a des choses à faire partout. Hein.
Parce que dans le milieu du foot, vos actions, elles prennent de l'écho chez qui, par exemple?
Chez personne.
C'est fou.
Ouais, je sais. Non, mais oui, bah, c'est...
À part Steve Mounier, quoi.
Ouais, à part Steve, ouais. Et c'est vrai que je pense qu'en France, il n'y a pas deux associations, deux petites associations, parce que nous, on est vraiment humainement très petits, qui ont pu réaliser autant de projets qu'on a réalisés en 7 ans. Hein.
Et justement, quelles sont les valeurs que véhicule aujourd'hui le football professionnel? Parce qu'il y a des dérives, peut-être, avec la dimension marketing dans le football, certains joueurs, et puis la starification, par exemple, et une Coupe du Monde au Qatar qui peut poser polémique. Enfin, voilà, il y a peut-être des enjeux aujourd'hui. Et c'est quoi les valeurs que ça communique, le football, alors?
Les valeurs, c'est l'argent. Il n'y a plus que ça. Hein. C'est l'argent qui compte. Hein. Aujourd'hui... avec les droits télé qui ont explosé, mais bon, on voit bien en France ce que ça a amené. Et après, c'est les joueurs qui profitent de ça. Hein. Toute ma vie, le constat, 65% d'un budget d'un club professionnel, c'est les salaires des joueurs et
c'est la masse
staff,
salariale.
Hein. C'est la masse salariale, hein. C'est pas autre chose. Hein. Et c'est pas 60% et 70%, c'est toujours 65%. Donc, si vous doublez votre budget, vous avez vite fait la multiplication.
Il y a intérêt à vendre des maillots quoi, derrière. Après, quoi.
Non, mais c'est vrai, les valeurs... Après, c'est un spectacle. C'est un spectacle... Moi, je suis un fan aussi du foot anglais. Je regarde 3 matchs par week-end de foot anglais. Et c'est vrai que quand on voit des matchs en Angleterre, c'est énorme. Quoi. Le spectacle... les enjeux qu'il y a, les 5-6 plus grandes équipes, vous regardez un match, vous ne serez jamais déçu. Je ne suis jamais déçu. Liverpool, Chelsea et Manchester City, Manchester United et Tottenham. Ce sera toujours du spectacle, chaque match.
Bon, alors du coup, peut-être les gens qui se sentent concernés par ce que vous faites, comment ils s'y prennent? Il y a un site internet, j'imagine, moyen de vous contacter?
Ouais, il y a le site internet, on communique, on fait une newsletter tous les mois, avec ce qui est important, nous, comment on choisit donc nos projets, je vais aller très vite, c'est la fondation qui a des demandes, moi je vais voir, ou eux vont voir, on décide d'un projet, il y a une adjudication, le meilleur gagne, comme ici, en France, et après l'entreprise a 4 mois pour faire une école, 5 mois pour faire un petit hôpital, 1 mois pour faire un puits d'eau. Ce qu'il faut savoir dans notre asso, 95% des dons servent à construire des infrastructures. Ça, c'est important.
Ouais, donc, c'est qu'on sait où l'argent va.
Et exactement, c'est important.
Ouais, petite dernière question pour la route. Ce que vous faites avec MJ pour l'enfance, finalement, ça doit. Est-ce que ça ne fait pas prendre du recul sur pas mal de choses?
C'est une très bonne question. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas l'Afrique, des chefs d'entreprise, et qui avaient des valeurs de leur vie, des façons de voir les choses. Et puis, il a suffi qu'ils viennent une semaine en Afrique. Mais ça te les remet d'équerre, hein. C'est clair.
Ouais. Donc c'est important, important d'aller voir ailleurs.
Humainement, ouais. Au niveau du cœur, du soi même, de l'intérieur, ça te remue les tripes. Ça vous remue les tripes et après, j'ai des frissons quand je le dis parce que chaque fois, ça nous remue les tripes. On soutient aussi un orphelinat où il y a 78 gamins. Première fois que j'y vais dans cet orphelinat, je demande à voir le dortoir. Je rentre dans le dortoir. Je dis, mais où dorment les enfants? Les 78 enfants, ils dorment par terre. 15 jours après, ils avaient un matelas déjà et un doudou.
Donc, comme quoi, c'est faisable. On trouve des solutions rapidement. Bon, et, ouais, donc, ceux qui se sentent touchés par votre discours peuvent très bien vous rejoindre.
Exact, exact. Après, c'est le besoin, c'est de l'argent surtout pour construire, quoi. Hein. C'est parce qu'ils ont besoin qu'on leur mette des infrastructures en place. On a construit aussi une école agricole. Eux, ils n'ont pas de minerais, ils n'ont pas de pétrole. Ils ont une chance, c'est leur pétrole vert, c'est de l'agriculture. Ils ont une terre riche, il faut irriguer et il faut former les jeunes. Et ça, je pense que l'année prochaine, on va refaire une autre école agricole parce qu'ils ont... Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de formation. Et là, il y a des gens d'ici qui peuvent aller donner un coup de main.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Gistin.
Merci
d'être venu,
à vous deux.
D'être venu jusqu'à nous. C'était chouette.
C'est un
merci.
Plaisir.
Puis on vous souhaite plein de réussite dans vos projets.
Merci beaucoup.
Et puis, si les auditeurs souhaitent donner un coup de main à l'association, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de MJ pour l'enfance.
Association MJ pour l'enfance. Merci.
Au revoir.
L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.